Philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 20 mars 85.
Nous allons aujourd'hui donc, au point de vue philosophie politique, essayer d'entrer dans Machiavel. Je n'irai pas trop loin dans Machiavel, c'est relativement facile au point de vue intellectuel, comme vous verrez, c'est très reposant. Mais Machiavel a joué un rôle important, et il est représentatif de quelque chose de très spécial. Alors, je vous renvoie toujours à l'étude donc, de Jean-Jacques Chevalier. Je ne vous dis pas que vous vous plongez dedans maintenant, hein. Parce que je ne crois pas qu'il faut lire Machiavel pour vous préparer à la méditation. Je ne crois pas. Mais c'est bon de situer Machiavel, pour savoir ce que c'est que ce bonhomme-là. C'est un drôle de sire, n'est-ce pas ? C'est quelqu'un d'assez spécial. Intéressant, parce qu'il représente dans l'histoire de la pensée politique, donc, je vous ai dit, Chevalier, Jean-Jacques Chevalier, puisqu'ils sont plusieurs, histoire de la pensée politique. Et alors, on a l'État et la morale. Machiavel représente donc un très grand tournant au point de vue de l'histoire de la pensée politique. C'est pas un philosophe. Et c'est peut-être pour ça qu'il a dit tant de bêtises. C'est pas un philosophe. Ça, c'est bien évident. C'est un homme pratique, un homme qui a été engagé dans la politique sans aucune philosophie. Par le fait même, il a une philosophie uniquement de l'efficacité. Il sépare totalement politique et morale. Donc à ce point de vue-là, c'est juste l'inverse d'Aristote. Pour Aristote, nous avons vu, la politique est englobée par l'éthique. Et nous avons essayé de voir comment le problème de la foi venait compliquer, comprenez bien, hein, venait compliquer les rapports de la politique et de la morale. Vous voyez ? Pour bien comprendre Machiavel, je crois que Machiavel ne pourrait pas exister en dehors du christianisme. Je crois. Vous avez donc l'éthique. La politique naît dans le sein de l'éthique. Si nous sommes aristotéliciens. Tandis qu'au contraire, si nous sommes platoniciens, c'est intéressant de voir ça, si nous sommes platoniciens, la politique commente l'éthique. Mais, en comprenant bien, dire ça de façon trop simpliste, les platoniciens bondiraient. Au-delà du politique, il y a le contemplatif. C'est très intéressant de voir ça. Parce que ça montre que le contemplatif ne suffit pas à tout rectifier. On peut être contemplatif et dire de grosses erreurs dans l'ordre pratique. Ça, Platon. Platon est contemplatif. Et c'est contemplatif par excellence, Platon, d'une certaine manière. Mais c'est un contemplatif qui a avalé de très grosses erreurs et qui a mis le politique commandant l'éthique. Aristote, lui, comprend que le contemplatif, il sommet. Là-dessus, il y a un lien avec la. Il se donne la main comme contemplatif. Mais il ne se donne plus la main quand il s'agit de des rapports entre l'éthique et la politique. Ça, c'est important de comprendre ça. C'est très, très important parce que c'est peut-être là où on voit le mieux, si vous voulez, comment il peut y avoir des liens entre contemplatifs, il peut y avoir des options fondamentalement différentes au niveau proprement humain, de la formation humaine. Tous les deux sont pour le point de vue l'éducation. C'est bien évident. Aristote et Platon comprennent que la politique implique l'éducation. Et Aristote comprend que le point de vue politique est chargé de l'éducation, lui aussi. Mais c'est une éducation qui doit conduire vers une éthique personnelle. Et l'éthique personnelle va impliquer le dépassement de l'éthique dans la contemplation et le point de vue de l'amour d'amitié. À ce point de vue-là, on pourrait dire, Aristote sauve l'amour d'amitié. Ce qui est quand même très beau, hein. C'est très grand ça, c'est le point de vue humain. Dans le sens très très fort, c'est le sourire grec. Platon, il ne sourit pas beaucoup. Il est trop sérieux. C'est le reproche que je pourrais faire à Platon, il est trop sérieux. Et c'est vrai, il est trop sérieux, parce que c'est la justice. Hein. Aristote, c'est l'amitié. L'amitié fait sourire. On est ami tant qu'on est capable de se sourire. Et quand ça devient tragique, ce n'est plus l'amitié. C'est la justice qui l'emporte. C'est la justice qui domine. Tandis que lui, c'est l'amour de l'amitié. C'est important de saisir ça. C'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et des deux côtés, c'est l'éducation. Vous voyez que l'éducation est finalisée très différemment. L'éducation chez Platon est finalisée par la justice. L'éducation et alors la loi. La loi, c'est la justice. Hein. Ça prend une dimension extraordinaire chez Platon, la loi. Parce que c'est la justice. Tandis que pour Aristote, la loi est dépassée par la contemplation et l'amour d'amitié. L'amour d'amitié, mais qui exige une rectification vertueuse. Pas d'amour d'amitié sans la vertu. Pas d'amour d'amitié sans la vertu. S'il n'y a pas la vertu, s'il n'y a pas la prudence, il n'y a pas d'amour d'amitié. Alors, il y a la prudence. Et la prudence est au-delà de la justice. Tandis que chez Platon, la justice est au-delà, d'une certaine manière, de la prudence, parce que la prudence va s'identifier à la contemplation. C'est très curieux chez Platon. Il dit, au fond, le statut prudentiel de l'homme n'est pas vu. Et il est une clé pour arriver. La prudence, c'est la sagesse pratique. Et la sagesse pratique est commandée par la prudence. La prudence implique cette application, ce soin à l'application de ce qu'on doit faire. Et la prudence commande tout point de vue pratique comme tel. Alors, va s'ajouter le point de vue de la foi. Parce que nous avions vu l'éclatement de ces deux positions, Platon et Aristote, l'éclatement chez les stoïciens. Alors, premièrement, deuxièmement, troisièmement, les stoïciens. L'éclatement de l'universalité, de la cosmopolis. C'est la polis, la cité qui éclate dans un point de vue universel. Il n'y a plus la distinction entre barbare et grec, ou grec et barbare, c'est plus juste de dire ça, parce que les barbares sont relatifs aux grecs, et les grecs ne sont pas relatifs aux barbares. Donc, c'est comme juif et goyim. Vous voyez, c'est des choses très importantes à saisir, ces choses-là, parce que ça fait comprendre l'éclatement, l'universalité qui va arriver avec le stoïcisme. L'universalité qui va préparer le catholicisme. Entre quand on est grec et qu'on est juif, la religion judaïque, il y a une opposition. Et cependant, il y a une infiltration. Ça, c'est très très mystérieux. La Providence a conduit les choses d'une façon très étonnante. Les livres sapientiaux qui font qu'il y a une infiltration grecque. Jusque dans le point de vue proprement judaïque. Et cette infiltration a fait que, de fait, c'est quand même quelque chose qui avait une espèce de regard universel. Le stoïcien tend vers le point de vue politique universel, le cosmopolis, hein, l'éclatement de la cité. bien ce que ça veut dire en grec, pas en français. Mais c'est intéressant de voir la police, elle est tombée dans quelque chose d'assez particulier. C'est toujours les gardiens qui l'emportent. N'est-ce pas ? Alors, ça fait la police. Alors, la cosmopolis, donc la police dans son regard universel. C'est la politique qui regarde quelque chose d'universel, l'éclatement. Cet éclatement va rejoindre l'universalité de la foi catholique. C'est ça qui est intéressant. La foi catholique est capable d'assumer le romain et le grec. Ça, c'est la grandeur de la foi catholique. La foi judaïque ne pouvait pas. C'est ce que je me souviens d'un rabbin, c'était quand il y avait à Paris ces contacts avec eux, un rabbin qui m'a dit cette chose. Nous devons reconnaître que la parole de Dieu, que la Torah, a pu être portée au monde entier grâce à la foi catholique. Et nous le reconnaissons, c'est beau de sa part, nous le reconnaissons, c'est grâce à la foi catholique. Mais en même temps, ça a été le très grand danger, c'est qu'elle a peut-être perdu sa vertu, sa force. C'est très très joli comme chose, c'est comme crainte en même temps. Parce que si ça s'universalise, ça risque de perdre son intensité. C'est toujours le même problème. On a peur de tomber dans l'universalisme. Parce qu'on perd son intensité familiale. Toujours l'opposition entre le peuple et la famille. Alors, la foi chrétienne, la foi catholique va apporter un nouveau regard sur le point de vue politique. Parce que cette foi catholique va impliquer l'Église. Quand on est foi catholique, foi chrétienne, c'est le Christ, foi catholique, c'est l'Église. L'Église implique une cosmopolis. Ça implique quelque chose comme ça, ça implique une société, ça implique une communauté, et une communauté universelle, qui s'organise, et qui s'organise au niveau proprement du salut. D'où les conflits entre l'Église et l'Empire. Alors je dirais, vous voyez bien, les deux internationales, pour prendre un mot, les deux internationales, c'est beaucoup plus vieux que le point de vue marxiste. Le marxisme, c'est la troisième internationale. Mais il y en a deux avant. Il ne faut pas l'oublier. Il y a deux internationales avant. L'internationale de l'Empire romain et l'international de l'Église catholique. L'Église catholique est internationale, c'est-à-dire qu'elle est au-delà du point de vue national. Si je suis catholique, je ne suis plus français en premier lieu. C'est dur à dire, mais c'est ça. Je suis méta-français, méta-américain. C'est encore plus dur à dire aujourd'hui. Je suis au-delà de l'Amérique, parce que je suis catholique, donc je suis au-delà du point de vue proprement américain. Je suis au-delà de tous les États. Et c'est la signification de Rome. Oui, donc rivalité entre ces deux internationales. Et c'est vrai, ça, il y a la rivalité, ça fait des tensions. Alors d'un côté, on veut que ce soit l'Empire qui absorbe l'Église, et de l'autre côté, on veut que l'Église absorbe l'État. C'est ça dans la rivalité. Alors qu'en réalité, il ne devrait pas y avoir rivalité, parce que c'est sur deux niveaux totalement différents. Mais ça a mis du temps avant que le levain évangélique comprenne que l'international, l'Église, soit au-delà de tous les États. C'est forcé, ça. Vous voyez, la conversion de Constantin, ça a fait du bruit, ça c'est vrai, n'est-ce pas ? Et alors on a dit à ce moment-là toutes les conceptions qu'il y a à ce moment-là de l'Église avant Constantin et l'Église après Constantin. Et alors on explique tout par là, ce qui est faux du reste, c'est un conditionnement, ça n'explique rien du tout. Constantin est quelque chose de très important, puisque c'est d'une certaine manière l'Église qui absorbe. c'est pas commode de l'absorber. N'est-ce pas ? Et c'est pas commode de garder son indépendance et sa vraie liberté en face de l'Empire romain. Alors donc, les deux internationales. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, où il faut comprendre ce que nous allons voir maintenant, Machiavel, qui est la Renaissance. Parce que jusque-là, et alors quand je dis les deux internationales, je crois qu'il faut le situer ici simplement. Saint Thomas au-delà de l'augustinisme. Parce que de l'augustinisme, étant donné que Saint Augustin, il est merveilleux, Saint Augustin, c'est un saint. Donc il est merveilleux. Mais intellectuellement, Saint Augustin est toujours lié à Platon. Enfin, il faut le reconnaître, il est lié à Platon. Et on comprend très bien qu'il soit lié à Platon. Saint Augustin était un rhéteur. Pas l'oublier, la formation première de saint Augustin. Et Platon, c'est un rhéteur. Un rhéteur de premier ordre. Un rhéteur extraordinaire, Platon. Mais c'est un rhéteur, quand même. Hein. Il faut regarder l'alliance de Platon avec Gorgias. C'est un rhéteur. Aristote dit, la rhétorique est au service de la politique. Platon n'a jamais dit ça. C'est-à-dire qu'Aristote, il a mis la rhétorique au service de la politique. Il a dit, la logique est à la philosophie première, à la philosophie, ce que la rhétorique est à la politique. C'est une petite analogie qui est très intéressante à voir. La rhétorique est à la politique, ce que la logique est à la philosophie. Donc c'est une méthode. Très vrai, si on veut être un politicien, il faut être un rhéteur. C'est quand même impossible pour les élections, c'est impossible. Il faut pouvoir apporter le morceau. Et donc il faut être le rhéteur. Il faut pouvoir persuader. La rhétorique, c'est une persuasion. C'est arriver à faire convaincre les gens. C'est du vraisemblable. Il faut être intelligent, il faut du vraisemblable. Les gens ne peuvent comprendre que le vraisemblable. La vérité, c'est difficile. Comment voulez-vous vous présenter aux élections en cherchant la vérité? Mais vous êtes battu d'avance. C'est évident. On ne peut chercher la vérité que si on est au-delà du point de vue politique. Si vous êtes dans le point de vue politique, ne cherchez pas la vérité. Vous n'arriverez jamais. Il faut du vraisemblable. Et c'est très important de comprendre ça. Parce que si vous cherchez la vérité, vous savez que vous serez toujours rejeté. L'accepter. On ne peut vivre comme rejeté que si on est contemplatif. Si on est contemplatif, on peut accepter d'être rejeté. On vous rejette, ça ne peut pas être autrement. Dès qu'on cherche la vérité, nécessairement, les chiens aboient. Les petits chiens, ils aboient. Ça ne peut pas être autrement. Dès que vous cherchez la vérité, parce que tout le temps, c'est ce que dit Jésus hein, quand il dit « Jérusalem tue ses prophètes et Athènes tue ses philosophes ». Et ça continue. La recherche de la vérité vous met en dehors. Ça, il faut accepter que la recherche de la vérité vous met en dehors du point de vue politique. Donc, on ne peut tenir bon en cherchant la vérité que si on est contemplatif. Parce qu'il faut bien, s'appuyer sur quelque chose, hein. Alors, on s'appuie sur Dieu ou sur la politique. Partage des eaux. Et c'est très compréhensible. On s'appuie sur Dieu ou sur la politique. Et la politique implique le point de vue de la rhétorique. Le vraisemblable. Oui. Alors, saint Augustin reste un rhéteur, bien que converti. Il reste platonicien. C'est curieux. La grâce de Dieu n'a pas perfectionner totalement l'intelligence de saint Augustin. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie admiratif de Platon. Admiratif de Platon, avant tout croyant, hein, comprenez bien, avant tout croyant. Mais sa foi n'a pas permis d'arriver à discerner jusqu'au bout l'erreur de Platon. Il est resté platonicien. C'est pour ça qu'on aime tant saint Augustin. Pas l'oublier. Parce qu'il y a dans Saint-Augustin des possibilités d'aller dans certaines routes diverses. Hein. Luther dit qu'il est augustinien et qu'il est le véritable augustinisme, qu'il est l'augustinisme dans toute sa perfection. Et saint Thomas se réclame augustinien et qu'il est saint Augustin purifié. Parce qu'il y a un lien entre saint Thomas et saint Augustin qui est très fort. Saint Augustin, c'est le grand-père. Alors au grand-père, on ne demande pas d'être aussi précis que à celui qui est immédiatement le père. Hein. Et saint Thomas, lui, va revenir à Aristote pour mettre, parce que je crois que saint Thomas met parfaitement en ordre le lien entre l'Église et l'État. Et c'est pour ça que saint Thomas a commenté la politique d'Aristote. Je crois que tant qu'on ne lit pas la politique d'Aristote et qu'on ne commande pas la politique d'Aristote, on est incapable de pouvoir voir exactement les lignes de partage entre l'Église et l'État. C'est tellement difficile. Parce qu'on vit dans l'Église, on est une communauté dans l'Église, et en même temps, on est citoyen. Contre monsieur le maire, et on respecte monsieur le maire, peu importe ses idées politiques. On le respecte, parce qu'il a autorité sur ce que représente une petite cité, une toute petite cité. Elle me dit, vous n'êtes pas assez aristotélicien, monsieur le maire, soyez-le un peu plus, et essayez de comprendre un peu mieux, pour comprendre un peu mieux la distinction entre le point de vue de l'Église et le point de vue de l'État. Je crois que saint Thomas a mis ça tout à fait au clair. Ce serait intéressant, si on avait le temps, de revenir sur saint Thomas pour voir cela. Je l'ai simplement situé, parce que ce n'est pas lui qui nous donne les principes. Saint Thomas est théologien avant tout. Donc, il respecte la politique d'Aristote. Ça, c'est d'une façon très étonnante. Si vous voulez comprendre saint Thomas au point de vue des rapports entre l'Église et l'État, il faut revenir à ce que dit Aristote. Et on comprend très bien comment Aristote permet cela, parce qu'il met au-delà du point de vue politique une éthique personnelle. Or, que fait la foi? La foi est premièrement une éthique personnelle. Ce n'est pas premièrement une éthique politique. Jésus ne nous a pas apporté un nouveau système politique. Hier. Il n'a pas apporté une nouvelle politique, il a apporté un salut personnel, pas un salut politique. Et c'est même peut-être toute la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle. L'ancienne alliance, c'est le peuple d'Israël. La nouvelle alliance, c'est chaque personne qui est sauvée. Et comme on continue de vivre dans un devenir, on a besoin d'une communauté nouvelle qui est l'Église. Mais la communauté nouvelle qui est l'Église, elle apparaît dans l'assemblée des croyants. C'est l'assemblée des croyants. Et donc il y a toujours quelque chose qui est antérieur à l'Église, la foi. La foi m'est donnée directement par Dieu. C'est pour ça que la foi me justifie. Et la foi me lie dans une éthique personnelle. C'est parce qu'Aristote met l'éthique au-delà de la politique que Aristote peut m'aider à comprendre l'autonomie de l'Église. Tandis que comme c'est difficile, si je suis platonicien, je mets la politique avant l'éthique. Alors qu'est-ce que va faire la foi? Si je suis platonicien, qu'est-ce que va faire la foi? Est-ce que la foi va me donner une nouvelle politique? Non. Alors, si l'éthique est soumise, il y aura conflit entre l'éthique chrétienne et la politique platonicienne. La justice dans la nouvelle alliance n'est pas première, c'est la miséricorde. La miséricorde fait appel à une éthique personnelle et la justice reste à sa place au niveau politique. Oui, comme c'est important, c'est toute la question de la miséricorde et de la justice. Dans un système platonicien, posez-vous la question, parce que c'est intéressant, c'est très important, dans une perspective platonicienne, pouvons-nous comprendre que la miséricorde l'emporte sur la justice? Dans une éthique aristotélicienne, nous le pouvons. Ah, nous ne disons pas du tout que c'est l'éthique aristotélicienne qui l'éclaire, mais nous disons simplement que l'éthique aristotélicienne dominant la politique permet d'être baptisé. Si tu es capax, es-tu capable d'être baptisé? Eh bien, l'éthique aristotélicienne est capable d'être baptisée. Tandis que l'éthique platonicienne, étant sous la dépendance de la politique, il faut une césarienne. Impossible autrement. C'est impossible autrement. C'est impossible que l'éthique platonicienne puisse être directement baptisée. Parce qu'il faudrait le baptême de la politique. Et le baptême de la politique ne peut pas se faire. On ne baptise pas un État. Il n'y a que la Légion étrangère qui fait ça. Une fois, quelqu'un que je connaissais bien, qui était officier de la Légion, si l'officier est catholique, tout le reste est catholique. Donc vous voyez, c'est le point de vue politique qui l'emporte. Et on comprend très bien ces choses-là. C'est des choses qui sont intéressantes. Si l'officier va à la messe, tout le peuple va derrière. Et constamment, on voit ça. Ça, c'est le point de vue catholicien. Alors, le point de vue catholique baptise des individus et des personnes. Pêche à la ligne. Et pas le point de vue politique. Je ne veux pas convertir le prince. Tout le monde par derrière sera converti. Mais non, ce n'est pas ça la conversion chrétienne. La conversion chrétienne, c'est des individus. Et donc l'éthique aristotélicienne permet le baptême, parce qu'elle est avant la politique. L'éthique platonicienne étant dépendant du point de vue politique ne permet pas. Eh bien, tous les conflits, voyez, entre les deux internationales, l'Empire et le point de vue de l'Évangile, tous les conflits viennent que de fait. C'est une philosophie stoïcienne et platonicienne qui ont d'abord servi à la théologie. Et qu'il fallait l'éthique aristotélicienne que saint Thomas a découvert, que saint Thomas a appris, pour permettre de mettre en place les relations de la personne et de la communauté politique. La personne chrétienne et la communauté politique. Nous reverrons ça, parce que quand nous essaierons de construire nous-mêmes, nous verrons bien qu'il n'y a pas de politique chrétienne, au sens absolu. Indirectement, oui, il y a des hommes chrétiens qui font de la politique. Et par le fait même qu'il y a des hommes chrétiens qui font la politique, leur politique est corrigée par un point de vue chrétien. Mais il n'y a pas au sens strict, oui, une politique chrétienne. Parce que s'il y avait une politique chrétienne, justement, le chef serait chrétien et tous les autres partageraient. Il y aurait des baptêmes collectifs. Et les baptêmes collectifs, vous voyez, c'est mettre le primat de la paroisse sur l'individu. Ça existe aujourd'hui, ça. On fait des baptêmes collectifs. Attention, le baptême est essentiellement individuel et personnel et familial. Il n'est pas collectif. Je veux bien des confirmations, mais pas le baptême. Parce que le baptême, c'est justement chaque individu qui entre dans l'Église, qui est relié au Christ, directement. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour essayer de comprendre les rapports entre l'Église et l'État. Si on ne voit pas cela, on ne peut pas. Donc, saint Thomas a donné une théologie qui permettait de voir les liens exacts entre l'Église et l'État. Ça, je crois que c'est le propre de la théologie de saint Thomas. Et les circonstances providentielles le permettaient grâce à saint Louis. Il ne faut pas oublier, hein. La Providence a uni Saint-Louis et Saint-Thomas. Et ça, c'est extraordinaire. Hein. C'est le moment merveilleux des cathédrales. Il y a eu un moment. Alors, nous ne sommes pas nés de cette époque-là, donc n'ayons pas la nostalgie de Saint Thomas et de Saint Louis, ce serait très faux. Mais reconnaissons qu'il y a eu un moment très extraordinaire dans l'Église, où il y a eu un saint qui était roi. Je dis bien un saint qui était roi, je ne dis pas un roi qui était saint, mais un saint qui était roi. Un saint qui était roi et un théologien qui était un saint. Ça, c'est extraordinaire. Et il y a eu une rencontre. Et vous savez bien, la fameuse légende, qui je crois est vraie, dans la mesure où une légende est vraie, cette fameuse légende qu'il ne faut jamais oublier, Saint Thomas invité à la table de Saint Louis. Saint Thomas n'avait pas envie du tout. C'est une perte de temps d'être invité à la table du roi de France. Il n'avait pas du tout envie. Mais son prieur avait envie parce qu'il était sensible un tout petit peu à ça. Une invitation du roi de France, hein, c'est quand même quelque chose. Alors, il avait donné l'ordre à Saint Thomas d'y aller. Saint Thomas, qui savait très bien ce que c'était que l'obéissance, il avait fait le traité, il savait très bien. Il faut exécuter. Il faut exécuter. Mais intérieurement, Saint Thomas pouvait continuer de méditer. Il avait le droit. Il obéissait, il allait à la table du roi de France. Mais il continuait de méditer. Et puis tout d'un coup, oubliant complètement qu'il était à la table du roi de France, il se met à taper sur la table. J'ai trouvé. Alors, Saint-Louis dit quoi? La réponse au manichéisme. Vous voyez, ce que Saint-Augustin n'avait pas saisi entièrement. Parce qu'il était platonicien. Et que Platon ne permet pas de répondre au manichéisme. Vous voyez ce que c'est que le manichéisme, hein? Le manichéisme consiste à dire la matière est mauvaise. La sensibilité est mauvaise. C'est de diviser l'homme en deux, l'esprit d'une part et puis le corps de l'autre. C'est un dualisme, le manichéisme. Et c'est de considérer que la matière est mauvaise. Donc, tout ce qui est manuel concourt à la matière. C'est mauvais. Et l'esprit seul est pur. Hein? L'alliance est avec l'esprit sans être avec l'alliance avec l'homme, l'alliance avec la chair. Le verbe est devenu chair. Pour le manichéisme, c'est odieux, ça. Le verbe est devenu chair. Non, le verbe est esprit. Il ne peut s'allier qu'avec l'esprit. Donc un dualisme. Quel dualisme platonicien, il ne faut pas l'oublier. C'est un dualisme qu'on retrouve constamment, ce dualisme-là. Et saint Thomas a lutté contre ça en se servant d'Aristote. Aristote dit, la matière n'est pas mauvaise. La matière est une attente du bien. Un appétit vers le bien. La matière n'est pas mauvaise, elle est en puissance. Et c'est auprès du roi de France. C'est extraordinaire. C'est pour ça que cette légende, je crois, est très juste. Même si les historiens disent qu'ils n'ont aucun document pour dire ça. Mais c'est quand même très beau. C'est auprès du roi de France. Donc, la sainteté de celui qui gouverne le temporel. Si on est manichéen, et qu'on est saint, on doit fuir au désert, et surtout pas gouverner, puisque c'est le temporel, et que le temporel est odieux, il est mauvais. C'est auprès du roi de France que saint Thomas découvre, intérieurement, dans sa méditation, il obéissait, au point de vue du fort externe, il obéissait, vous savez, l'exécution, il fallait manger auprès du roi de France. Manger auprès du roi de France n'empêche pas qu'on continue d'écouter la lecture du réfectoire. N'est-ce pas? La lecture du réfectoire, il la continue intérieurement. Et il continue de méditer. Tout d'un coup, donc, il frappe. J'ai trouvé. Alors il explique, et Saint-Louis fait venir tout de suite un scribe pour écrire l'intuition de Saint-Thomas, la découverte de Saint-Thomas, pour être sûr de ne pas la perdre. Le manichéisme, donc la distinction de voir que la matière n'est pas mauvaise, que la sensibilité n'est pas mauvaise, que les passions ne sont pas mauvaises en soi, c'est auprès du roi de France. C'est beau. Et c'est ça qui permet, vous comprenez, de voir l'alliance du spirituel et du temporel. Selon un certain ordre, mais l'alliance du spirituel et du temporel, de comprendre qu'il peut y avoir un ordre politique qui ne soit pas mauvais, qui reste un conditionnement sain, S-A-I-N, et qui permet la sainteté de l'esprit. La sainteté de la main se fait par l'intelligence. Il ne faut pas l'oublier. La sainteté du travail manuel se fait par l'intention profonde de notre cœur. Et l'intention profonde de notre cœur impelle que notre intelligence soit rectifiée jusqu'au bout. Et ça, c'est saint Thomas. Et donc, il peut arriver à découvrir comment il y a une distinction entre l'Église et l'État, l'Église et l'Empire. Et qu'il peut y avoir des rois qui soient des saints. Il peut y avoir des saints Joseph rois. C'est extraordinaire. Il peut y avoir des saints Joseph rois. Et la sainteté va jusque-là. Elle peut sanctifier le gouvernement politique. Elle peut faire que le gouvernement politique soit une tâche que Dieu nous demande de faire. Et d'aller jusque-là. Donc tout le temporel peut être assumé par la grâce. Ça, c'est le propre du réalisme de saint Thomas. Et de permettre alors cette vision particulière qu'il a quand il essaie de comprendre ce que c'est que le gouvernement divin de l'Église et que ce gouvernement de l'Église respecte l'autonomie de chaque pays. Il faut aller jusque-là pour comprendre certains aspects de l'Église d'aujourd'hui par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport aux pays qui sont de fait dans des gouvernements que nous disons, nous, qui sont tyranniques. Il y a un respect de l'Église par rapport à toute autorité temporelle. Toute autorité temporelle, l'Église respecte, au plan politique. C'est extraordinaire, ça. Ça peut nous blesser dans notre sensibilité, hein, en disant, mais quand même, hein, le Saint-Père ne devrait pas, il devrait fermer les portes à la Russie, en disant, la Russie, tant que vous êtes comme ça, on vous chasse. Respecte au point de vue de la Chine, tant que vous êtes comme ça, on vous chasse. Pas du tout. Il y a un respect vis-à-vis du gouvernement politique. Un respect, c'est pas une alliance, hein. C'est un respect de respecter ce que représente cette autorité. Et ça, c'est thomiste. Oui. Et je crois que c'est évangélique. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus dit ça quand l'Empire romain est présent à Jérusalem. Il faut voir ce que ça représente. Il ne dit pas du tout, hein, qu'il s'agit. Et cependant, l'Esprit Saint dit à Jeanne d'Arc, boutez en dehors de la France. Les Anglais, c'est pas les Romains. C'est curieux, hein, comme langage. Il faut comprendre ces deux langages différents. Rendez à César ce qui est à César, le respect, et dans certaines circonstances, on comprend très bien qu'il faut libérer un État pour qu'il puisse redécouvrir son autonomie. C'est très complexe, hein, c'est pas simple. Il faut pas simplifier. Alors il faut comprendre ce que c'est rendre à César ce qui est à César. Saint Thomas dit ça. Immédiatement après, nous avons vu comment il y a la corruption de la théologie. Très vite. Occam. Occam, c'est la logique qui l'emporte sur la métaphysique. La méthode qui l'emporte sur l'objet et la finalité. Alors, à ce moment-là, on est devant des systèmes. Et alors, on ne peut plus voir les liens qui existent entre les deux. Et on met des oppositions. Et alors, on voit des oppositions qui peuvent se créer très violentes. Et la Renaissance naît à partir de là. Et la Renaissance va être comme une espèce de désir d'un humanisme qui se libère. Alors, ce serait intéressant de mettre en parallèle Machiavel et Descartes. Descartes veut la libération de la raison par rapport à la foi. C'est ça que veut Descartes. Il veut que l'intelligence redécouvre son autonomie. Et Machiavel veut que la politique redécouvre son autonomie. D'une façon qui n'est pas juste, hein, comme Descartes du reste. Tous les deux sont dans l'erreur. Mais tous les deux ont des intentions qui peuvent être pas si mauvaises, après tout. Et je crois que les intentions de Machiavel sont beaucoup moins pures que celles de Descartes, je crois. Machiavel, il y a quand même énormément de machiavélisme. Et donc, la fin justifie tous les moyens, comme on dit, puisque c'est comme ça qu'on définit le machiavélisme habituellement. La fin justifie tous les moyens. Pourquoi ? Parce que pour lui, il faut une séparation totale du point de vue politique, du point de vue moral. On est devant une position tout à fait nouvelle, et c'est ça qui est intéressant dans Machiavel, c'est que la politique sera un art. L'art politique. Et comme ce n'est pas un grand art, c'est de la virtuosité. Il faut être virtuose en politique. Et la virtuosité fait qu'on choisit les moyens non pas en fonction d'une finalité qui est le bien, mais en fonction tout simplement qu'il faut rester au pouvoir. Oui, il y a un égocentrisme dans toute virtu, dans tout. La différence entre l'art et le virtuose, hein, vous savez bien ce que la différence. Le virtuose, c'est celui qui regarde avant tout l'efficacité. L'artiste, lui, est finalisé par l'œuvre. Qu'il y ait un élément artistique dans le point de vue politique, nous essaierons de voir. Je crois que la politique ne peut pas se séparer de l'art. Ce que Platon a très bien vu quand il a mis la rhétorique au service de la politique. Et Aristote aussi. N'est-ce pas ? Donc, il y a un élément artistique. C'est bien évident. Si vous n'êtes pas un peu artiste, vous n'arriverez pas au point de vue politique. Ça, c'est sûr. Si vous n'êtes pas un peu virtuose, vous n'arriverez pas au point de vue politique. Vous êtes sourd. Je ne parle pas de la même façon devant la jeunesse et devant la vie montante. Je ne parle pas de la même façon. D'un côté, il faut montrer l'élément dynamique, le renouveau, et de l'autre côté, il faut montrer que ça garde, rien n'est changé, ne vous inquiétez pas. Alors, vous voyez très bien, et ça c'est l'aspect rhétorique, c'est l'aspect de virtuosité. Mais ce qui est un peu terrible chez Machiavel, c'est que découvrant ça, il le met comme la structure même de la politique. La structure de la politique chez Machiavel, c'est le point de vue artistique et l'art au niveau virtuosité. Alors, il faut comprendre, hein. Je lis quelques pages, quelques noms ici. Le 18 juin 1498, un jeune homme de 29 ans, et ça c'est tout à fait rhétorique, plutôt que de dire les dates directement, on met qu'il a dit 29 ans. Calculé, hein. Bon, c'est petit calcul. 18 juin 1498, un jeune homme de 29 ans nommé Nicolas Machiavel entré dans l'administration de Florence, sa ville natale. 25 jours auparavant, l'étrange aventure mystique de Jérôme Savonarole avait été liquidée dans le sang. Très rhétorique tout ça, mais c'est très bien. Je vous le lis exprès parce que c'est très joli de voir Savonarole et Machiavel, hein, Alors vous voyez, il se distingue 25 jours auparavant. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas loin, hein, même pas un mois. 25 jours auparavant, l'étrange aventure mystique de Jérôme Savanarole. C'est vrai, c'est une étrange aventure, Savanarole. Dominicain, Savanarole, il ne faut pas l'oublier. Alors, avait été liquide dans le Savanarole, moine dominicain, en révolte contre le pape Alexandre VI, Borgia, faisait vivre depuis 3 années la République Florence, délivrée en 1484 des Médicis, sous une dictature cléricale et populaire. C'est très joli, ça, hein? Et c'est vrai, Savonarole, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Sous une dictature cléricale et populaire, mélange de théocratie et de démocratie, dont les bases étaient l'ascétisme et la délation. 14 années durant, Machiavel, chef de la deuxième chancellerie, ainsi que secrétaire du Conseil des 10, qui s'occupe de la guerre et des affaires extérieures, rédige les instructions destinées aux agents diplomatiques de la République. Donc, il est très engagé, jeune, puisque 29 ans, avec tout de suite un poste très important. Mais vous voyez que c'est la petite histoire de la cité Florence. Alors, on verra ça la fois prochaine, n'est-ce pas ? Comment Machiavel nous donne, au point de vue politique, donc un primat de l'art et de la virtuosité.
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de grâce, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.